donc la parole à Bernard Guilbeault, qui va nous emmener sur les chemins de la
statistique.
Donc, merci. Alors, je suis mathématicien, mais je suis pas statisticien, hein, je suis maths pur, mais j'ai enseigné la statistique pendant 20 ans à des étudiants en sciences de la vie. Ce qui fait que je me suis intéressé tout particulièrement aux conditions de validité des tests statistiques et vous allez voir que, et aux conséquences que ça pouvait avoir lorsqu'elles ne sont pas suffisamment respectées, vous allez voir que ça en a beaucoup. Alors, exemple pédagogique, je vais évaluer la probabilité pour des pièces de tomber sur pile. En réalité, mais je ne sais pas, les pièces de 1 euro c'est 30%, 2 euros 70%. J'en lance 200, 100 de 1 euro, j'aurai à peu près 50% de pile. 180 de 1 euro, 34%, 20 de 1 euro, 66%. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Mais en réalité, je cherche une probabilité qui n'existe pas. 50%, 66% ne correspondent à aucune estimation de probabilité. C'est seulement lié aux proportions relatives des pièces de 1 euro et 2 euros que j'aurais lancées. Par conséquent, pour exprimer la réalité, il faut deux résultats, un pour chaque pièce. Si je cumule les données, je n'en aurai plus qu'un, et je ne pourrai jamais exprimer la réalité, donc il ne faut pas regrouper. Mais pour ça, il faut s'en apercevoir en observant les données. Et bien sûr, on retrouve ça dans les études épidémiologiques. Par exemple, Michaelos Derieux 2008, qui étudiait les atteintes des mésentères centrales et des scléroses en plaques chez les enfants. Il y a un résultat non significatif qui signifie, en principe, qu'on peut accepter que les cas les témoins auraient eu une même probabilité d'avoir été exposés à la vaccination hépatite B. Ah oui, mais sous condition quand même que ces probabilités existent. Regardez la première colonne, 143 scléroses en plaques, 56% de vaccinés hépatite B, deuxième, et 206 atteintes non scléroses en plaques, seulement 36%. Ce n'est pas du tout la même chose, il y a entre les deux groupes un écart très significatif, moins d'une chance sur 10 000 d'avoir un tel écart par le seul fait du hasard. Ce qui fait que quand vous regroupez les deux groupes, eh bien vous allez chercher l'estimation d'une probabilité qui n'a à peu près aucune chance d'exister. Et deuxième colonne, pour les témoins, c'est pareil. Ce qui fait que le résultat de tout à l'heure affirmait en réalité l'égalité de deux probabilités qui n'existent pas. On trouve donc un résultat très fort dans le carré bleu, un autre sur la ligne verte que je reprends ici, les 206 atteintes non scléroses en plaques, 36% de cas vaccinés hépatite B, 43% pour les témoins, ça fait un autre ratio évidemment inférieur à 1, significatif côté vaccin protecteur, mais que je laisse entre guillemets quand même, parce qu'on doit se poser la question, protecteur ou aggravant, vous avez trois possibilités après cette vaccination, soit il ne se passe rien, soit une atteinte simple, soit une sclérose en plaques. On constate un déficit statistique de vaccinés hépatite B parmi les simples, alors on doit se poser la question, ben ils sont allés où, ceux qui manquent, soit dans la case rien, effet protecteur possible, soit dans la case sclérose en plaques, effet aggravant possible. Vous voyez qu'un autre ratio inférieur à 1 peut très bien correspondre à un effet aggravant dans certaines circonstances. Et si c'était le cas, parce qu'avec 150 cas vaccinés hépatite B, vous avez 52% de conversion en sclérose en plaques, et pour les autres, seulement 32%, vous retrouvez un signal très fort qui correspond à celui de tout à l'heure. Moins d'une chance sur 10 000 d'avoir un tel écart par le seul fait du hasard. Vous voyez l'importance qu'il y a à respecter les critères mathématiques. Maintenant, deuxième partie, le test cas témoin sur des délais ou fenêtres temporelles. Il est utilisé dans ces conditions de manière aussi systématique que systémique alors qu'il serait à proscrire absolument. Un exemple pédagogique pour comprendre. Premier tableau. Dans l'année qui suit, mettons une vaccination, vous avez 100 cas 1000 témoins. Deuxième année, pareil, vous avez un autre ratio de 1, il n'y a pas de signal statistique, bien sûr. Maintenant, deuxième tableau, première année, pareil. Ah, mais la deuxième année, vous avez seulement 20 cas 200 témoins. Oui, mais l'autre ratio, il vaut toujours 1, parce que c'est toujours 10 témoins pour un cas, première année, deuxième année. Oui, mais si vous observez 100 cas sur une année et 20 cas l'année suivante, je pense que vous allez tous vous poser des questions, et vous aurez raison, parce qu'il y a effectivement un signal très fort qu'on obtient en modélisant par une loi de Poisson sans s'occuper des témoins. Simplement, on prend le même nombre de cas attendus, première année, deuxième année, le signal apparaît, et on retrouve cette erreur partout. Par exemple, la publication américaine dans le Journal 2014, des atteintes des mésentères centrales et scléroses en plaques apparues après une vaccination, pouvant être quelconque, hépatite B ou HPV. Il y a 72 tests cas témoins, tous sur des délais entre 14 jours et 3 ans. Ils sont tous aussi inadaptés que les uns que les autres. Il faut tous les reprendre. Par exemple, celui qui pointe la dernière vaccination reçue avant l'apparition de la première atteinte. Il est non significatif en cas témoins. Ah oui, mais vous avez 195 cas qui sont apparus dans l'année qui suit la dernière vaccination reçue. Et 106 pour les deux années suivantes cumulées, ils ne donnent pas de détails. Ah oui, mais Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être 106 sur un an, 195 sur deux ans. Il y a une inversion des proportions avec des nombres très élevés. Vous avez un signal absolument énorme. Pareil pour les témoins, 854 sur un an, 508 sur deux ans. Oui, mais ils évoluent entre la première année et les deux suivantes, les cas et les témoins, de manière à peu près en phase. Ils se donnent la main, si vous voulez. Ce qui fait qu'il n'y a pas de signal en cas témoin, puisque ça consiste à comparer les cas aux témoins. Mais quand on compare aux délais, aux fenêtres temporelles, il y a des signaux très forts. Mais pour les auteurs comme les commentateurs autorisés, il n'y a pas de signal. Oui. Mais comment on obtient une situation pareille? C'est simple. Si vous faites une vaccination tous les ans, vous aurez zéro cas et zéro témoin vacciné au-delà d'un an. Ça va vous donner un super signal, évidemment, mais qui va pointer la répartition des vaccinations dans le temps et rien d'autre. Notez que l'année 2009 était incluse dans la période d'observation. Maintenant, les commentaires sur ce résultat par les auteurs repris par le président du CTV. Tous les vaccins reçus par les cas ont été pris en considération. Ah, c'est pas tout à fait exact, c'est seulement la dernière vaccination reçue. On ne peut pas exclure qu'une autre vaccination pratiquée deux ans auparavant, par exemple, aurait pu lancer le processus, ça n'a pas été étudié. Étude très rassurante qui démontre à trois ans l'absence. Elle peut pas ce résultat ne peut en aucune façon démontrer cela. Hein. La seule chose que ça démontre, bon, il faut le dire, c'est que les auteurs et les commentateurs autorisés n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Maintenant, troisième partie, un signal qui a fait beaucoup de bruit, c'était il y a un peu plus de 11 ans, vous vous souvenez, je reprends la publication Michael Ostervio 2008, le fameux sous-groupe des observants au calendrier vaccinal, KDTP, 1 ROR, 1 BCG avant deux ans, ça commence à dater, hein. Les auteurs notaient un risque accru de sclérose en plaques quand on regarde plus de 3 ans après la vaccination pratiquée, hépatite B, pratiquée par Angérix. Oui, eh bien ça va peut-être être un scoop pour vous. Ce signal qui a fait beaucoup de bruit n'existe pas. Il a été créé artificiellement et involontairement par les non-vaccinés Angérix. Regardez d'abord le carré bleu. 11 cas dans les 3 ans qui suivent la vaccination Angérix contre 19 au-delà. C'est-à-dire au plus 19 pour les années 4, 5, 6. J'ai donc deux périodes de 3 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et au plus 19. Je modélise par une loi de Poisson. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de signal statistique. L'écart n'est pas assez grand. Alors comment les auteurs s'y prennent-ils pour l'obtenir? Eh bien, ils font comme tout le monde. Ils testent en cas témoins. Ils introduisent le 43 et le 48. Là, à droite, il n'y a pas de signal. Mais ils laissent traîner, comme tout le monde, les non-vaccinés Angérix. 42 cas, 256 témoins. La ligne grise, là. Vous remarquerez que 42, c'est un peu plus de 2 fois 19. Que 256, c'est plus de 5 fois 48. Et que c'est ce rapport de proportion très fort, de 5, qui crée le signal statistique, qui est donc créé artificiellement par les non-vaccinés Angérix qui n'ont rien à faire dans l'histoire. D'ailleurs, les 42 cas, là, ils ont une probabilité structurelle nulle d'appartenir au délai testé, puisqu'il faut obligatoirement avoir été vacciné Angérix. Alors que pour les 30 cas vaccinés Angérix, cette probabilité peut être estimée cette fois-ci à 63%. On n'a donc pas le droit de cumuler. Maintenant, on peut voir l'affaire d'une manière plus amusante en étudiant la durée de gestation chez la souris. Vous notez les durées qui s'écoulent entre les dates de fécondation et les dates de naissance, ou pour l'incubation, entre la date de vaccination et la date du début de la maladie. Et dans les deux cas, on va rechercher une concentration de ces durées autour d'une même valeur. Bon, je pense qu'on va être tous d'accord, hein. On n'ira pas chercher des souris non fécondées pour étudier une durée de gestation. Ça correspond à la ligne grise, là, les cas, les témoins non vaccinés. Et ni d'ailleurs non plus des souris, certes inséminées, mais stériles, qui correspondent à des témoins, certes vaccinés, mais qui ne tombent pas malades. Hein ? Mais oui. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance parfaite entre les critères, disons, banaux, prosaïques, et les critères mathématiques qu'on a tendance malheureusement à négliger. Et soit dit entre nous, que de bruit pour un signal qui n'existait pas, parce que ce signal qui n'existait pas, les commentateurs autorisés veulent le casser, bon, on comprend pourquoi, et ils ne comprennent pas par contre ce que je viens de vous expliquer. Alors, ils le déclarent aléatoire. Les résultats du sous-groupe d'enfants ayant respecté le calendrier présentent les caractéristiques d'un résultat fortuit. C'était notre commission nationale de pharmacovigilance. À force de triturer les données, on finit toujours par trouver quelque chose, disait Dominique Costagliola à la télé, une de nos meilleures experts sur le plan théorique. Et ils évoquent le risque de première espèce, compte tenu de la multiplicité des tests, augmentation très importante de ce risque, qui est donc la probabilité de détecter une association significative par le seul fait du hasard, qui est donc ici très élevée. J'aurais dû le souligner en gras, parce qu'en réalité, elle ne vaut que 5%. Comment fait-on pour avoir un risque de première espèce élevé? Première expérience, j'ai un signal statistique. Ce risque vaut 5% au niveau habituel des tests. Je renouvelle les données, si je peux. Je teste la même chose, j'ai pas de signal.
cerise de première espèce, monte. Je renouvelle encore les données, si je peux. Je teste la même chose, toujours pas de signal, il monte encore. Mais les auteurs ne pouvaient pas faire ça. Par analogie, ça consiste à compter les voix d'un même candidat, mais dans de nouvelles urnes, alors à ce moment-là, la proportion des voix pourra changer. Ce que les auteurs ont fait, c'est une exploration de données, c'est-à-dire réaliser différents tests parmi les mêmes données, c'est-à-dire par analogie, si vous voulez, compter les voix de différents candidats dans une même urne. Imaginez qu'un soir d'élection, des inspecteurs du ministère arrivent dans un bureau de vote en fronçant les sourcils. Mais enfin, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs du dépouillement, qu'en comptant les voix des autres listes, vous avez très certainement modifié le nombre de voix obtenues par la première. Il y en avait plus de 30 aux européennes. Hein. Stupeur dans le bureau de vote. Hein. Bon. Maintenant, je suis obligé de conclure. Donc, l'expertise va devoir faire sa révolution. Enfin, j'espère qu'elle la fera. Et puis, nous aussi, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en temps réel, on n'avait pas tout compris de ces affaires-là. Et peut-être que vous n'avez pas tout compris avec cet exposé rapide. Mais, malgré tout, essentiel, parce que ça ne sert à rien d'avoir des données parfaites, exhaustives et tout, si ensuite on les massacre, hein, en les traitant n'importe comment. En faisant apparaître des signaux qui n'existent pas et en neutralisant des signaux qui existent. Merci.